France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
On parle de Paris ce matin.
Paris où, me dit le Parisien, Alcinda, modeste habitante d'un rez-de-chaussée de l'avenue Kléber, repoussa des casseurs, peut-être incendiaires, samedi au cœur du chaos. Paris dont l'arc de triomphe tagué et les gilets jaunes triompheront, fait la une du Financial Times. Paris qui revient en page intérieure de ce quotidien de l'élite mondiale, le FT, avec ce titre « Paris contre le populisme » souligné d'une photo de flammes. Oui, mais il s'agit ici de flammes dévorantes une forêt de Californie, car Paris est aussi le nom de l'accord mondial sur le climat qu'on essaye de consolider en Pologne et que des gouvernements populistes menacent. Y aura-t-il un avenir pour les noms de Paris? Paris pour la planète ou Paris capitale heureuse d'un pays en confiance? Un article des Échos semble incongru ce matin qui me raconte comment la Tour Eiffel entre en rénovation pour être fin prête pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est bien loin. Des unes sonne le tocsin du pouvoir, vous l'avez raconté Nicolas. Submergé d'illibération en jaune et derrière ce jaune se devine l'œil bleu du président Macron. Monsieur le président, à vous d'agir, midi libre. Les journaux témoignent que l'on n'a pas détruit qu'à Paris. Nord Littoral en atteste pour Calais. La montagne et le monde pour le Puy-en-Velay et la Provence pour Marseille, où les fabricants de santons qui exposent criquets du port demandent aux émeutiers d'épargner leur travail avant Noël. Oui, mais dans l'Union et l'Ardennais, où l'on raconte aussi Charleville éprouvé, un homme et une femme se parlent. Il est Cédric Delair, leader des Gilets jaunes, libre, et elle est Eina Kurik, députée La République En Marche. Et vous avez ceci. Elle, j'ai conscience qu'un ras-le-bol et une colère montent depuis des années. J'ai fait partie de ces populations. Beaucoup d'entre nous, au sein de la majorité, auraient pu porter un gilet jaune. Lui, on ne veut pas d'une insurrection. J'ai été très blessé par la profanation de l'Arc de Triomphe. On veut construire les choses ensemble. Qu'est-ce que ça vaut, un gilet jaune et une députée ensemble, quand on hésite ailleurs entre la politique et l'insurrection? La Provence titre son article de une « L'art oublié de la révolte ». Et le journal est allé voir ce qu'il appelle « les rebelles modèles de la barque », car sur ce péage bloqué, près d'Aix-en-Provence, il n'y a pas de violence, mais de la palabre et des espérances confuses. « Il faut comprendre, disent-ils, 1936 et mai 68, c'est loin, on a perdu le savoir-faire. » Les gilets jaunes de la barque en appellent à des intellectuels pour comprendre ce qui leur arrive. Tiens, jadis, les paysans révoltés se choisissaient des représentants issus des classes favorisées pour se faire entendre, dit dans La Croix l'historien Gérard Noiriel, auteur d'une histoire populaire de la France. Et Noiriel rappelle ce que fut la violence quand le peuple avait le sentiment de payer et de ne rien recevoir. Il est aussi dans Libération, Noiriel, où il dit ceci, les classes populaires n'existent pas pour Emmanuel Macron et il pense que des artistes, si les gilets jaunes les invitaient, pourraient, par un charivari anti-gouvernemental, juguler la haine.
Le sort de la planète, Claude, est aussi dans les journaux.
Et 196 pays sont en état d'urgence à Katowice, disent les Échos, où la COP24 débute donc dans le pessimisme. Mais le journal économique choisit une espérance dans un cahier spécial sur des entreprises qui sont sur le pont du réchauffement. Des Suisses ont ainsi inventé un additif alimentaire qui permet aux vaches de produire plus de lait et moins de méthane, puisque les flatulences des bovins sont responsables de 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. L'avenir est donc possible? Oui, mais il est ambigu. On lit dans Le Monde la fierté de Darek Gieron, jeune héritier d'une histoire glorieuse. Il est le leader du syndicat Solidarité des mineurs de charbon de Vujek, près de Katowice justement. Ces mineurs, qui fut au cœur de l'industrie polonaise et de la lutte contre la dictature communiste, 9 morts en décembre 1981. Oui, mais dans la Pologne libre et moderne, Katowice veut devenir verte et branché, la mine polonaise va donc finir. Est-ce pour l'écologie ou pour l'économie? Car on importe en Pologne du charbon russe, voyez-vous. Il est moins cher.
Un cri pour finir dans le Figaro.
Le cri d'un homme coiffé d'une sorte de chapeau melon. Et ce dessin, qui est aussi troublant que beau dans le Figaro, nous vient du 19e siècle. Le Grand Brailleur, c'est son nom. Œuvre de Jean-Jacques Lequeux, 1757-1826, employé du cadastre parisien maniaco-dépressif qui traversa les révolutions à l'Empire et sera célébré la semaine prochaine au Petit Palais. Il fait partie, lisez cet article, des fous merveilleux, des artistes à l'âme malade que le Figaro nous offre en soulagement ce matin. Elle ne braillait pas, mais ironisait Maria Pacôme. Sublime dans un film au titre actuel, La crise, elle est morte au cœur de la nôtre. Elle est si bien rendue dans l'Humanité, dans le Figaro encore, sous la plume d'Armel Hélio, qui rappelle ceci. Cette actrice populaire venait du plus dur de notre histoire. Elle était née, je cite, dans une famille communiste. Son petit frère Robert fut arrêté et fusillé. Elle en parlait dans certains entretiens lorsqu'elle se sentait en confiance. Le père de Maria, lui aussi communiste, déporté à Buchenwald, était revenu abîmé et violent. Voilà donc Le Figaro, qui célèbre comme l'humanité une comédienne des communistes. Est-ce curieux ? Dans le cahier économie du Figaro, l'éditorialiste Jean-Pierre Robin raconte le retour des domestiques dans notre société, ceux qui travaillent pour les autres, chez les autres. On parle désormais d'emplois familiaux. Leur nombre a été multiplié par 6 depuis 1990 et cette explosion, dit Le Figaro, creuse le fossé des deux France. Et voyez-vous, quand l'humanité demande à sa une la justice sociale, quand la Marseillaise, qui en Provence vient de fêter ses 75 ans d'un journal né communiste sous l'occupation, poursuit sa campagne contre le logement indigne, lire dans Le Figaro une charge contre la domesticité donne le sentiment d'une république où des gens se retrouvent, mais le savent-ils ?
Merci Claude Askolovitch pour la revue de presse.